Un tango ?
Une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, je suis 21.
Marie Richon.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Dos à la caméra, face à la mer, un homme passe de la crème solaire sur les épaules de son fils. Quelques rouleaux de vagues plus tard, le geste s'inverse, le fils passe sa main dans le dos de son père. C'est la fin de votre documentaire Matanyahi, réalisé il y a plus de 10 ans, dans lequel vous provoquez un dialogue avec votre père en prenant la caméra comme médium. Ce geste rôde en fantôme dans votre premier long métrage de fiction, Les Destinées d'Asher, qui sort en salle la semaine prochaine en France et qui a été remarqué au dernier festival de Cannes et lors du festival du cinéma israélien à Paris. Bonsoir Matanyahi.
Shalom.
Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je remercie aussi Margit Lipsker que l'on entend chuchoter derrière vous parce qu'elle va traduire vos propos. Bonsoir à vous Margit, merci beaucoup d'être là. C'est la fin de cette semaine de la presse et des médias dans l'école. Comme chaque soir depuis lundi, je suis accompagnée par des jeunes gens pour mener les entretiens avec moi. Et ce soir, ce sont 3 jeunes filles, Inès, Sabrina et Léa au micro. Bonsoir.
Bonsoir.
Ben voilà, quel concert, c'est magnifique. Peut-être l'une d'entre vous rappelle à nos auditrices et nos auditeurs comment on s'est rencontrés.
C'était il y a 2 ans. Est-ce que tu t'en souviens, Marie?
Est-ce que je m'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'est marquant.
C'était au lycée Jacques Decour à Paris. Pour la semaine des médias aussi, une longue semaine basée sur le thème du rêve. On s'est revus une année après aussi, pour la mensuelle, pour ton ancienne émission, Les Nouvelles Vagues. On se retrouve aujourd'hui, maintenant, pour cette émission, pour le film de Matanyahi, Les Destinées d'Asher.
Et on est ravis.
How did you get out of going to Vietnam?
Did your bar mitzvah mean anything to you?
How important was it for you to marry a Jew?
Do you read the letter that I send you?
Did you ever disappoint your parents?
What are your regrets?
What makes you cry?
Do you think you are good looking?
When were you the happiest?
Why were you so angry all the time?
How close did you come to eating me?
Do you often think about dying?
אין, אני אף פעם לא חושבת שהסרט זה אמצעי, זאת אומרת שיש לך מטרה בזהו, לצלם ואחר כך לנתק קשר.
אני חושב אבל שאת כל השאלות האלה שאני שואל אותך, אכלתי לשאול בלי המצלמה, אני לא חושב.
אוקיי, יכול להיות, בסדר, אז אם זה לא היה דרך המצלמה, זה היה מגיע באיזשהו שלב. היה מגיע באיזשהו שלב שהיינו מדברים, אבל פה התחיל... היה לך יותר קל, אוקיי, מאחר, זה לגיטימי וזה נחמד וזה חכם ואני ראיתי את זה ושיתפתי פעולה ושמחתי עם זה אבל לא חשבתי אף פעם שברגע שאתה תגמור לצלם אתה לא תהיה בקשר, על זה לא חשבתי
On vient juste d'entendre un extrait de votre documentaire. Pouvez-vous nous parler de ce documentaire?
כן, זה סרט שהוא נוצר לאחר תקופה ארוכה שאני לא הייתי בקשר
j'ai fait après une longue période pendant laquelle je n'avais aucun contact avec mon père. Mon père a quitté la maison sans aucune explication et sans aucune raison. Et pendant des années, en tant que jeune, je ne savais même pas où il habitait, je ne connaissais pas son numéro de téléphone, je ne connaissais pas d'adresse à laquelle j'aurais pu m'adresser. Et là, j'avais l'impression d'avoir un père qui était parti dans le monde, que j'aimais beaucoup et qui n'existait plus. Et en tant qu'adolescent, j'avais des questions qu'il fallait absolument que je pose à mon père. Où es-tu? Est-ce que nous te manquons? Est-ce que tu savais que ça allait me faire mal à ce point-là? Ces questions-là, eh bien, je devais rester pendant très longtemps. Je suis resté avec ces questions jusqu'au moment où j'ai à nouveau essayé de le contacter. Et là, je le confronte à ces questions-là. Et je n'ai pas toujours reçu de réponse à mes questions. Voilà, ensuite je continue ce questionnement via le nouveau film Les Destinées d'Asher.
Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de projeter un peu votre histoire à travers le personnage d'Asher?
J'ai choisi Asher parce que c'est un instrument, c'est-à-dire j'ai vu que, qu'il a la capacité, qu'il a de quoi être une star de cinéma. Et moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux choses. Je voulais absolument choisir quelqu'un qui serait le contraire de cela, qui serait impulsif et qui sait également sortir la violence qu'il y a en lui, qui sait exprimer de cette façon-là ses sentiments. Et pour moi, c'était intéressant justement de construire une histoire autour d'un personnage qui pouvait s'exprimer de façon complètement différente de la mienne.
Mais peut-être pour préciser, je ne sais pas, la question de Sabrina, à savoir, est-ce que Asher est une forme de double pour vous dans la fiction, puisque vous dites à la fin de ce documentaire être resté quasiment sans réponse de votre père, en projetant Asher dans un film de fiction. D'une certaine manière, vous poursuivez l'histoire, Matanyahir.
Oui, ce personnage d'adolescent avec ses questions au père, qui cherche également une image de père, ça c'est quelque chose qui vient de ma propre histoire, effectivement. Et qui vient également de mon expérience en tant qu'enseignant au lycée. En tant que prof de lycée, il y avait ce genre de situation également dans la classe. Et tout cela fait que le film tourne autour des relations d'un prof, entre prof et élève et entre fils et père. Et mon vrai père, on le voit également apparaître dans ce film à un moment assez dramatique.
Est-ce que cette œuvre aurait pu vous aider ou vous a aidé comme Asher pour la relation avec son père?
L'histoire de Asher et de son père est complètement différente de la mienne.
Et
ce n'est pas non plus quelque chose de vrai dans le film. C'est-à-dire, Asher, il a un lien très fort avec son propre père. Il travaille avec lui, effectivement, dans les affaires, dans les échafaudages. Asher habite avec sa maman, mais travaille avec son père. Et moi, j'utilise tout simplement ce personnage dans son côté extrême, dans la manière dont il s'exprime, dont il parle, son côté physique également, et dans sa capacité d'exprimer à la fois de la colère et de la finesse. Je l'utilise pour l'histoire que moi je veux raconter.
Comme nous avons pu vous lire au début de l'émission, on retrouve l'œuvre de Mark Kendall dans votre film, et je voudrais savoir le rapport qu'il y a entre les questions et votre film.
Peut-être tu précises, Léa, de quoi il s'agit.
C'est des questions qu'il pose à son père, et on les retrouve aussi dans le film, dans la bibliothèque, quand le professeur expose cette œuvre à ses élèves.
En effet, voilà, il y a cette espèce de grande feuille de papier sur lesquelles sont marquées toutes ces questions-là, et c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Mark Kendall.
Oui,
ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému dès le début parce que cela parle justement de ces frontières qui peuvent exister entre les enfants et les parents, les enfants et les proches. Qu'est-ce qu'on a le droit de poser comme question? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de demander? Je crois que dans de nombreux cas, on se dit, voilà, on a la fantaisie d'une discussion très profonde avec les parents ou un frère, une sœur, et ensuite, en fait, dans la réalité, ça ne se fait pas parce qu'on a peur. Parce qu'il y a certaines autres choses qui nous arrêtent. Et cela m'a préoccupé également en raison de ma propre histoire personnelle dans ma relation avec mon père. Moi, j'ai apporté ce travail de Handel aux élèves. Je leur ai proposé. Et voilà, cela leur permettait justement d'écrire des questions qui s'adresse à quelqu'un qui connaisse vraiment ou pas vraiment. Et j'ai reçu là des réponses, enfin des travaux extraordinaires qui m'ont rendu. Alors, en tant que professeur, on se demande comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va noter ce genre de travail ou pas? Parce que ce sont des choses extrêmement personnelles qu'ils ont exprimées.
Mais
grâce à cela, on peut beaucoup mieux connaître les élèves et peut-être également un petit peu aller dans leur propre monde émotionnel.
Comment vous avez découvert le travail de cet artiste, Karl Handel? Parce que finalement, Question to My Father, c'est une manière presque de poursuivre votre propre documentaire. It's written on your ID that I'm your father.
J'ai vu ça un jour dans un journal, un petit article où dans le journal, il y a tous les jours un petit article sur la culture et Karl Handel figurait dans cet article. Alors j'ai recherché.
Il y a 2000 ans, on croyait que la Terre était plate et ce grec Ératosthène, qui était bibliothécaire à Alexandrie, en Égypte, où il y avait la plus grande bibliothèque du monde, il aimait observer. C'est ce qu'il aimait faire. Observer les gens, les bâtiments, le ciel, les étoiles. Un jour, il regarde le coucher du soleil. Il voit le soleil se coucher, il voit la lune monter. Et il se dit, si le soleil est rond et si la lune est ronde, notre planète est peut-être ronde aussi. Pas mal, non ? Ça n'arriverait plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne regardent que leur portable. Ils ne se parlent plus. Avant, les gens racontaient des blagues. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est. Le père d'Acher n'arrête pas d'en raconter. C'est vrai? Oui. Alors son père est spécial. Pas spécial, très spécial. Pas vrai, Acher? T'as de la chance que je t'aime. Mais parle pas de mon père, sinon je t'éclate. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Touche pas au téléphone, prends plutôt un journal. Ça va, je me calme. Non. Lis le journal. Bon, passez-le moi. C'est quoi ce journal? C'est quoi toutes ces pages? Il y a du sport au moins? Il y a tout, regarde. À la une, toutes les actualités. Deuxième page, des articles sur toutes sortes de sujets. Puis les infos locales, les infos mondiales. Quoi d'autre? Tiens, avis de décès. Sport pour toi. La météo en Israël, dans le monde. Waouh, Tokyo, 36 degrés, orage. Ces Chinois, ils sont complètement tapés. Tu as déjà été à l'étranger? Non, jamais. Je te recommande d'y aller au moins une fois dans ta vie, seul. Pourquoi seul? L'expérience est différente quand tu es seul. Tu regardes le ciel différemment, le pain a un autre goût. Même la façon de monter dans le bus est différente. Et c'est sympa.
Matan Yair, on entend ici un extrait de votre film Les Destinées d'Acher, traduit par Romain de Becdelièvre. On est dans une salle de classe. Votre personnage principal, Acher, découvre qu'on peut lire un journal à la place de regarder son téléphone portable. Et peut-être, je ne sais pas, Inès, tu voulais poser des questions peut-être sur ce décor, sur la classe, sur le professeur?
On se posait la question du rôle du professeur dans le film qui peut s'apparenter au rôle d'une figure paternelle.
Lorsque j'ai pensé à ce rôle de professeur, je pensais toujours que dans le professeur, dans sa sensibilité, dans la façon dont il voit et écoute son élève et ses élèves, j'y voyais plutôt quelque chose de la mère qui manque à Asher. Et pas forcément encore un père, mais plutôt le côté maternel, parce que nous savons que la mère n'habite pas avec eux. Et je souhaitais que ce prof lui ouvre le monde, lui montre de nouvelles choses et n'essaye pas de le restreindre comme son père essaye de le restreindre, il essaye de l'enfermer. Et c'est la raison également pour laquelle dans leur appartement, on ne va pas trouver d'images, de journal, de livres ou quoi que ce soit qui puisse rappeler l'art ou la culture. Et le prof lui ouvre le monde un petit peu comme un journal dans lequel on voit les capitales du monde ou encore Stones de l'histoire.
Et
en fait, ça tombe sur des oreilles qui s'ouvrent quand même, parce que Asher, c'est un adolescent curieux qui veut savoir comment vivent les gens. Et il est curieux, il veut rentrer dans la maison des autres, il veut savoir ce que les autres ont dans leur tiroir, il veut savoir ce que les autres ont dans leur frigo. Il veut arriver à écouter la mer dans un coquillage.
Quand on regarde la signification du prénom Rami, ça signifie celui qui attend. Donc, est-ce que ici, vous avez choisi ce professeur, Rami, est-ce qu'il attend de ses élèves d'avoir le bac? Est-ce qu'il attend d'Asher qu'il aille un peu plus vers lui, qu'il s'ouvre aux autres?
Je ne pense pas que le prof ait des espoirs, des attentes particulières ou ce genre d'idées. En fait, il est un peu mélancolique, il est triste, dans sa propre vie, il est triste. Et là, je voudrais en venir à ma propre expérience de professeur. Quand moi, j'ai commencé à travailler, j'étais persuadée que les élèves voudraient lire et qu'ils rencontreraient la beauté de la littérature et que cela leur ouvrirait des horizons nouveaux. Et peu à peu, j'ai compris qu'à la fin du lycée, eh bien, c'était également la fin de la littérature pour eux, qu'ils n'allaient plus ouvrir de livres dans leur vie, qu'ils n'allaient plus lire de poésie ou d'histoire ou de romans ou de nouvelles, et que la littérature, eh bien, elle s'arrête à ce moment-là et elle mourra pour eux.
D'après vous, ce sera à cause de quoi qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus, au-delà de l'école, au-delà du lycée, à la littérature, à l'histoire?
Écoutez, c'est ce que je vois un petit peu autour de moi. Par exemple, les élèves auxquels j'enseigne, moi, c'est également lié à la patience, au temps, ou à la capacité de se concentrer également. Je ne sais pas, lorsque je vois autour de moi un petit peu les jeunes, ça me fait un peu peur. Le portable ou encore les réseaux sociaux, demander pratiquement l'autorisation ou une confirmation de tout ce qui se passe. Quelque part, on perd sa propre capacité de jugement. Et je trouve que là, il y a un peu d'indifférence ou un manque d'émotion ou de sensibilité. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais je vois que cela se prépare.
L'acteur qui joue Asher était vraiment votre élève. Est-ce qu'il était vraiment comme ça dans la vraie vie ou c'est plus une caricature?
Asher était bien pire point de vue résultat scolaire.
Et
moi, en tant que prof, je ne connaissais absolument pas ces côtés sensibles et tendres que je veux par contre montrer dans le film. Et ça également, c'était l'une des choses que je voulais absolument faire en tant que réalisateur. Montrer qu'il a tout un éventail d'émotions. Et je voulais justement créer cette idée que la littérature rentre dans sa vie et a une influence sur sa vie. Parce qu'au bout du compte, ce film, c'est une histoire imaginée, une fantaisie, sur le moment où un prof commence à devenir important. Un prof dont on se souviendra. Et pareil pour la littérature. La littérature, quand est-ce qu'elle devient importante? Eh bien, elle devient importante quand il se passe quelque chose de dramatique.
Tout à l'heure, Sabrina vous a demandé, selon vous, pourquoi les jeunes ne lisaient plus. Mais dans votre film, on voit bien que le père d'Acher ne le pousse pas à faire des études, il veut plutôt qu'il travaille. Il lui demande même « Mais est-ce que toi, t'as déjà lu un livre ?» Donc est-ce que vous pensez, en plus du fait qu'il y ait tout la technologie et tout ça, est-ce que vous pensez que aussi, ça peut être aussi la faute des parents qui poussent les enfants à vouloir... Enfin, que certains parents poussent plus les enfants à travailler au lieu d'aller dans des études où ils pourront continuer à lire. Donc voilà, est-ce que vous pensez que... Le rôle des parents est important aussi dans la future lecture des élèves, enfin des enfants.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des parents où c'est l'économique, le matériel qui prime. Je sais également de mes propres parents le souci qu'ils se font. Et bien sûr, il est clair que le monde des humanités ou le monde de ce type d'études est moins sûr. Et il fait peut-être peur également, économiquement. On a peur que les enfants ne trouvent pas d'emploi. Et les parents veulent que les enfants arrivent quelque part dans le monde, fassent leur chemin. Mais dans le film, j'essaye de montrer également que le père pense que les échafaudages, c'est bon pour son fils. Parce qu'il voit et il sait que son fils est violent, qu'il y a cette graine de violence en lui, graine qu'il avait lui-même. Et il a peur que l'enfant arrive dans des endroits dangereux, tels que la prison, et que l'enfant soit blessé. Et donc, il essaye de le protéger en le gardant dans les échafaudages et en lui disant « Voilà, ça c'est notre monde, ça c'est bon pour nous. » Et dans le film, je cite également « Où est-ce que tu vas encore trouver un travail où tu peux jeter du fer ?» Et donc, en d'autres termes, sortir ton agressivité, travailler à l'extérieur, donc pas dans une classe qui t'enferme, et tu n'as pas de patron au-dessus de toi, donc pas de système, et en plus tu gagnes de l'argent. Donc le père essaye donc de protéger son fils de cette manière-là, pour que ce fils n'aille pas dans des endroits dangereux.
Je sais qu'au moment où on préparait cette émission, je crois que c'est Léa, tu faisais mention d'une scène en particulier où justement le rapport du père au savoir est comparé à son souci économique. C'est quelle scène ?
C'est la scène où Asher révise le bac de littérature et donc il est dans son livre, il révise et là il y a son père qui arrive avec des billets et qui lui dit « compte ». Et donc ça m'a vraiment... pas choquée, mais enfin ça m'a interpellée dans le sens où on voit vraiment le contraste entre Asher qui est lui est dans la littérature et son père lui qui est dans la comptabilité, donc opposé un peu à la littérature. Et du coup je trouvais ça intéressant de relever ça et de vous demander votre point de vue sur cette scène, parce qu'on voit vraiment là la différence entre deux mondes, le monde de la pensée et le monde du matériel, de l'argent.
Okay.
Oui, ce que je voulais transmettre via cette scène, c'est multiple. D'une part, je voulais avoir la scène où le père apprend quelque chose à son fils. Et que, c'est par rapport à ce que le prof apprend au fils, il y a aussi quelque chose que le père lui apprend.
Et par ailleurs,
j'aime beaucoup les scènes dans lesquelles il y a de l'argent. Parce que je crois que dans l'argent, il y a également quelque chose de sensible ou d'émotionnel. Et c'est en fait une occupation qui intéresse. Et j'ai bien aimé, dans ce film, introduire une scène avec de l'argent qu'on compte, avec des billets que l'on compte. Parce que c'est vrai que le contraste, là, il est le plus fort.
D'autant, pour reprendre une phrase de votre film, Matan Yair, qu'à l'intérieur de cette scène, les sentiments sont complexes et les choses sont à la fois contrastées, comme tu dis Léa, mais aussi entremêlées, puisque sur ces billets, il y a la figure d'un poète. La frontière n'est pas aussi étanche que ça. La littérature, elle est même sur le papier de l'argent. Comme si vous nous proposiez de dire que voilà, les choses, elles ne sont pas aussi blanches et noires.
C'est exactement ça dans la scène. C'est une bonne interprétation.
Et
c'est peut-être également une de mes angoisses sur la fin de la littérature dans le monde.
Et
ce que le père dit dans le film, c'est un petit peu ma propre voix.
C'est-à-dire,
au moment où on met l'image d'un poète sur un billet d'argent, ça salit un petit peu la chose. Et on s'éloigne de plus en plus de la littérature.
Par les temps qui courent, Marie Richoux.
Oh. help me to face what lies ahead.
On vient d'écouter le titre de Nina Simone, Papa, Can You Hear Me?
Nous, on est toujours ici avec le réalisateur Matan Yair, donc réalisateur du film Les Destinées d'Asher. Et on est ici pour la semaine de la presse, et avec Sabrina et Léa, et moi-même Inès.
Pendant tout le film, on entend parler de la mère d'Asher, il l'a souvent au téléphone. Le problème, c'est qu'on ne la voit jamais, il n'y a aucune apparition à l'écran. Donc pourquoi avoir fait ce choix?
Avant, j'ai un petit peu parlé du fait que je souhaitais retrouver un petit peu de la mère dans le prof. Et dans le lien qui unit Asher à son prof, il trouve également quelque chose qui lui manque dans la vie.
Et
quand j'ai écrit le film, la mère était plus présente au départ.
Et
c'était un personnage qui apparaissait dans le film. Mais pendant que je travaillais sur le scénario, j'ai décidé de réduire son personnage et de l'enlever de l'apparition pour rendre la tension plus forte entre l'élève et le prof. Et j'aime bien également que dans un moment très important du film, eh bien là justement, il prend contact avec sa mère et il l'appelle. Là, il y a quelque chose justement qui l'incite à prendre contact avec sa mère.
D'accord, il est aussi très proche d'une jeune fille de sa classe. Donc, que représenterait cette fille? Est-ce que ce serait ce contact avec avec la femme, entre guillemets, qui l'a pas souvent?
Oui, je voulais trouver également un endroit dans sa vie où Asher ne pouvait pas tout se permettre. Un endroit où il serait peut-être plus timide et où il ne se comporterait pas de façon aussi brutale ou aussi vulgaire que ce que l'on voit d'habitude. Et donc là, c'est important pour moi de trouver un tel endroit dans le film pour lui. Et le lien avec cette adolescente, il l'aime bien. Il l'apprécie et il est également attiré par elle, semble-t-il. Alors ça reste un lien tout à fait sensible et fin. Et dans ses rencontres avec elle, il repense à certaines choses que le prof lui a dit, ces épines qu'il aurait. Et à partir de là, on commence également à comprendre que la littérature fait son entrée dans sa vie.
En plus, ces scènes avec cette jeune fille qui est en train de passer son permis de conduire sont des scènes où d'un seul coup, Asher, il se retrouve dans une autre position. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement le fils de sa mère, le fils de son père, l'élève de son prof. C'est un jeune homme qui veille à la réussite de quelqu'un d'autre. Il est presque en train de se soucier d'une autre destinée que la sienne, celle de cette jeune fille.
Et Ken Odoegla va...
Oui. Il se soucie d'elle, et cette scène, elle est tirée du fait que ma femme a passé pour la 9e fois son permis.
Et
chaque fois que je me suis dit, je me suis toujours dit, comment aurais-je pu l'aider si je l'avais connue avant? Et donc j'ai construit cette scène en tant qu'hommage
à
notre relation.
Ça en explique l'immense tendresse, j'imagine.
Il y a une scène aussi avec, où ils fêtent le milieu de leurs examens, donc, où il y a de la musique, et c'est une des seules, voire la seule scène où il y a vraiment de la musique. Pourquoi avoir fait ce choix de laisser aucun fond sonore à part la rue, enfin voilà.
Il y a encore deux moments dans le film où on a un peu de musique. La musique, c'est l'une des choses qui m'inspire le plus, qui me donne le plus d'inspiration. Mais lorsque je suis arrivée sur le plateau pour tourner le film, je ne savais pas où mettre la musique dans le film. J'avais des difficultés avec ça et j'espère qu'à l'avenir, je saurais mieux faire. Mais le rôle de la musique dans cette scène-là et l'atmosphère de cette fête, l'alcool, et Asher, il est un petit peu bourré, et c'est ce que lui permet de demander à la jeune femme de se pencher sur ce travail qu'il a préparé.
Le paradoxe de l'Antigone de Sophocle, c'est que c'est une femme, justement, qui prend la parole alors qu'on ne lui a pas demandé, malgré l'interdiction de Créon. Alors, il y a certainement un aspect politique, c'est-à-dire que Antigone refuse de céder à la loi de celui qui est le maître absolu. Ce maître absolu qui est un peu... depuis la mort de Polynice et d'Étéocle, celui qui est le tyran de Thèbes. Donc il y a une protestation contre la tyrannie, dont on trouvera des échos en particulier lorsque Créon s'affrontera à son propre fils. Cela dit, Antigone agit aussi au nom de la philia, c'est-à-dire cette notion d'amour, c'est pas la notion moderne d'amour, c'est une notion qui lie tous les membres de la famille, qui lie éventuellement aussi un mari et sa femme, mais qui est le lien social. Et c'est la défense du lien social que prend Antigone. C'est-à-dire qu'il s'agit pour Antigone de refuser que son frère soit à jamais coupé d'elle quand on lui refusera l'enterrement. Cette idée lui est absolument insupportable. Ça paraît extrêmement loin, c'est-à-dire que on a pu dire, Anouilh par exemple l'a dit, quelle drôle d'idée de se battre simplement parce que son frère n'a pas été enterré comme il fallait. C'est absurde. Or, encore de nos jours, on rencontre des situations de ce type. Il y a un film magnifique qui est récent, Ida, où on voit à quel point la nécessité d'enterrer un proche, d'assurer à un proche un accueil dans la terre, est fondamental pour l'existence même de l'homme.
Le but d'Aimon est de sauver Antigone, c'est son but, sa mission. Sauver son amour et convaincre son père de ne pas la condamner à mort. Mais c'est le contraire qui se passe. Il refuse et en plus il dit « Amenez-moi Antigone et ici, devant mon fils Aimon, je vais l'exécuter. » Et Aimon avertit son père « La mort d'Antigone en causera une autre. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit à son père que s'il tue Antigone, il le tuera à son tour. Ok, et l'autre possibilité ? La mort d'Aimon. Il dit, si tu touches à ma fiancée Antigone, je me suiciderai. Et il est sérieux, parce qu'il l'aime. Exactement, donc il y a deux options. Et quelle est la réponse ? Il arrive quoi ? Patience, Asher, on est en classe. Racontez quand même. Ouvrez à la page 67, Antigone est emmenée dans la grotte où elle sera enterrée vivante. Créon n'enterre pas les morts, il enterre les vivants. Rami, c'est quoi la fin ? Patience, Asher. Page 67, Yossi, tu veux lire ? Non. Allez, Asher. Yaakov, va à la fin, raconte-nous ce qui se passe. Asher, assieds-toi. On veut savoir la fin et vous ne racontez pas. Yaakov, vas-y, lis. Yaakov ne lit pas. À haute voix, on veut tout savoir. Il se suicide. Sors, tire-toi. Mais pourquoi je sortirai ? Dehors.
Matanyahu, nous venons d'entendre un extrait de votre film où le professeur traite de la tragédie Antigone, traduite par Romain Bec de Lièvre. Donc nous avons choisi cet extrait parce que Antigone est quand même importante dans le film puisqu'elle est enseignée par le professeur. Et donc nous on se demandait si Asher n'est pas un double d'Antigone dans le sens où dans toute tragédie le héros lutte contre sa destinée. Et est-ce que Est-ce que Asher ne lutterait pas contre sa destinée qui est finalement de travailler sur les échafaudages en voulant continuer l'école?
Si tu étais mon élève, eh bien tu aurais eu un 20 sur 20 maintenant.
Voilà.
J'ai choisi Antigone parce que c'est une tragédie. Et là, il y a effectivement cet aspect tragique de ce personnage qui essaye de lutter contre son destin ou contre sa personnalité, son contre-caractère. Essayer de réussir. Et je crois que chaque personnage et chaque héros essaye de transgresser la loi écrite ou non écrite. Un héros, il essaye de lutter, que ce soit pour la justice ou pour autre chose. Et là, voilà, c'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi Antigone.
De plus, le professeur, enfin Rami, se suicide. Est-ce que c'est encore un clin d'œil à Antigone qui, elle aussi, se suicide?
Oui. Évidemment, cette histoire.
Et le
prof, il montre justement le dilemme qui peut exister lorsqu'il parle d'Antigone. Et c'est Asher qui identifie cette possibilité de suicide. Et là encore, il y a un genre de lien profond entre les deux personnages, Asher et son prof. Parce qu'il y a chez eux, dans leur propre cœur, qui les touche mutuellement.
Je me souviens, je ne sais plus laquelle d'entre vous trois, pendant la préparation de l'émission, ait été interpellée par le fait que Asher, il avait autant envie de savoir, pour ce qui concernait la fin du texte d'Antigone, là, dans cette scène, et il dit « Dis-nous la fin, s'il te plaît, Jacob, dis-nous la fin », et il avait aussi envie de savoir autre chose. Vous vous souvenez de ça, cette volonté, son désir de savoir?
C'était... Quand le professeur s'est suicidé, Asher cherche vraiment à savoir pourquoi. Il demande à plein de personnes est-ce qu'il a laissé une lettre. Il va aller jusqu'à s'introduire chez le professeur pour trouver une lettre, une justification à son suicide. Tout comme il voulait absolument savoir la fin d'Antigone.
Okay, comme s'il y avait une force de questionnement qui était à l'œuvre et la littérature et la vie se confondaient, Matanyahu.
Oui, c'est cette curiosité qui fait qu'il a envie de savoir. Il veut connaître la vérité. Mais par ça, c'est quelqu'un qui est assez basique, en quelque sorte.
Et
il veut qu'on lui donne des réponses dans la vie. Et il comprend là que Rami ne va pas revenir, que Rami est mort. Et il doit maintenant, à présent que Rami est mort, trouver en lui-même le père qu'il cherche, le père dont il a besoin pour qu'il puisse continuer dans sa vie.
La dernière scène du film... On s'est posé plein de questions par rapport à celle-ci, mais surtout, on voulait savoir si le fait que le personnage principal, donc Asher, dise ces questions à son père, c'était un clin d'œil au documentaire que vous avez produit il y a 10 ans.
Oui, ces choses-là se mélangent les unes aux autres et se renvoient les unes aux autres. Et ce moment où le père et le fils, avec la scène finale du film, c'est le moment où nous allons leur dire adieu. Pour moi, il y a cette sensation que les deux maintenant, ils sont assis l'un à côté de l'autre et quelque chose de neuf peut commencer entre eux. Le lien qu'il y avait entre eux auparavant, eh bien, il a changé. Les choses ne sont plus les mêmes. Parce que justement, Asher trouve assez de force en lui pour regarder son père en face, pour lui poser des questions.
Est-ce que vous passez par Asher pour vous donner le courage à Asher que vous n'avez peut-être pas forcément avec votre père?
en passant par lui pour qu'il pose ses questions à son père. Est-ce que vous espérez qu'à la fin, peut-être, votre père vous appelle et réponde à toutes ces questions ?
Je ne pense pas chercher le courage de le faire. Ce qui m'intéresse plus, c'est exprimer la colère, exprimer la violence, parce que je me souviens de moi-même, adolescent, j'avais beaucoup de violence et beaucoup de désir, beaucoup de colère et beaucoup de désir de violence en moi. Et je ne savais pas comment l'exprimer, comment sortir tout cela de moi-même. Et là, ça m'a rendu curieux. Et dans le film, j'arrive à donner à tout cela une expression. Et j'arrive également à le convaincre. Par exemple, il y a une scène où Asher exprime toute la colère qu'il a face à la mort de son enseignant, et il exprime cette colère face à la femme de l'enseignant. Et là, j'arrive à sortir de Asher ce regard plein de colère et plein de douleur qu'il y avait en moi.
Puisque Sabrina, Inès et Léa vous questionnent sur le rapport entre la fiction et la réalité, et qu'elles ont rappelé que Asher était vraiment un de vos élèves, qu'est-ce qui s'est transformé dans votre relation lorsque vous êtes devenu le réalisateur qui dirige un comédien et non plus le professeur qui enseigne à un élève ? Comment ça s'est passé ?
Alors cette relation a changé un petit peu avant même. Parce que quand on est prof et quand on est dans le système scolaire, souvent le système exige que l'on catalogue et que l'on catégorise les élèves pour dire, voilà, est-ce qu'ils se comportent bien, ils ne se comportent pas bien, est-ce qu'il va passer à la classe suivante ou pas, est-ce qu'il faut inviter les parents ou pas, est-ce qu'il faut convoquer les parents ou non, est-ce qu'il va avoir son diplôme ou pas. Donc voilà, alors on essaie de les mettre dans des tiroirs, de les catégoriser. Et on voit en fait l'élève de moins en moins. Les élèves de moins en moins. Et je me souviens, il y avait un élève qui venait de perdre son père dans la classe. Et je me suis rendue pour présenter mes condoléances pendant les 7 jours. Et quand je suis allée là-bas, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui se sont mis à table à la fin du deuil, à la fin des 7 jours. Et soudain, j'ai vu Asher qui était là aussi. Et je vois qu'il est très chaleureux, qu'il apporte les plats, qu'il fait passer les plats avec beaucoup d'humanité. Et puis, bon, bah, les gens mangent. Et j'ai regardé cela comme une scène d'un film. Et je me suis dit, mais comment moi, en tant que prof, ai-je pu passer à côté ? Ai-je pu passer à côté ? Je ne connais pas ces élèves qui, par exemple, rentrent à la maison, préparent à manger à leurs petits frères, petites sœurs. Je ne vois pas leur côté tendre et sensible. Parce que ces élèves, ces enfants qui sont en classe avec moi, la classe, c'est l'endroit où ils ont toujours l'impression d'être en échec. On dit qu'ils sont en échec, qu'ils sont dérangés, qu'ils ne travaillent pas bien. Et dans le film, ce qui m'importait, c'est de montrer également l'endroit d'où ils venaient avant d'aller en classe, leur maison, leur monde. Un monde que moi, en tant que prof, souvent je ne voyais pas.
Est-ce que vous comptez reprendre le fait d'enseigner ou juste continuer à être réalisateur ?
C'est une question qui m'accompagne depuis un moment et difficile d'y répondre. J'aime enseigner. Mais je crois que là, j'ai la possibilité, j'ai une ouverture pour me consacrer un petit peu plus à la création. En fait, depuis que j'ai 10 ans, j'avais voulu être réalisateur et scénariste, écrire et faire des films.
Et
à partir de l'année prochaine, je vais quitter l'enseignement et je vais me consacrer à la réalisation de films.
Est-ce que maintenant, vu que vous nous dites que vous allez vous consacrer à la réalisation et au scénario, à l'écriture de scénario, est-ce que vous avez déjà de nouvelles idées d'écriture de film ?
Oui, j'ai l'idée d'un nouveau film. En fait, c'est un film où je veux continuer à travailler avec Asher en tant qu'acteur. Et là, ça portera sur une époque un petit peu plus tardive dans sa vie.
Mais
un jeune homme qui veut retourner à la famille qu'il avait jadis. Et dans ce film-là, il y a également l'attirance vers la violence.
Mais
je veux continuer ce voyage que j'ai commencé avec Asher.
D'ailleurs, quel regard Asher a-t-il eu sur le film ?
Quand Asher a vu le film, il a compris qu'il avait blessé beaucoup de gens quand il était élève au lycée. Des choses qu'il estimerait que c'était juste des petites bêtises. Il a compris que c'était des choses qui avaient laissé des blessures chez d'autres personnes.
Et
c'était bien de voir qu'il a constater cela par lui-même, qu'il a pu se regarder de cette façon-là.
Et
il se demande également si c'est quelque chose qu'il peut continuer à faire, être acteur, ou est-ce qu'il ne pouvait jouer que ce rôle-là dans les destinées de Asher. Est-ce qu'il a la possibilité de faire d'autres choses ? Moi, je crois que lui. Et c'est vrai qu'il me fait confiance.
Les destinées d'Asher, c'est un titre qui est au pluriel. Dans le film, vous laissez les choses assez ouvertes, puisque vous l'avez dit, cette scène finale où il est avec son père dans la camionnette, à poser des questions qu'il n'a jamais osé poser jusqu'à maintenant, dans une très très belle lumière, questions qui restent sans réponse. Ça veut dire qu'à la fin du film, pour vous, Matan Yair, les destinées, elles sont encore extrêmement ouvertes, extrêmement plurielles pour le personnage d'Asher. Tout est possible.
Je ne sais pas si tout est possible. Et en tant que réalisateur, voilà, c'est là où je laisse les choses au public. Moi, je veux quitter le film au moment où les deux, père et fils, sont dans un genre d'intimité.
Et
je le laisse, je transmets la chose au public, aux spectateurs. Parce que, bon, c'est vrai, ça reste ouvert.
Vous en pensez quoi, les filles ?
La fin, ça permet de nous, peut-être avec notre expérience, de transmettre ça sur notre propre vie. Et c'est une ouverture, personnellement, qui me plaît.
Moi aussi, enfin, je suis d'accord avec toi, Inès. Avoir une même ouverture, être plus de communication.
Avec ton père ? Avec les gens, de manière générale ?
Non, avec mon père, personnellement.
Toi, t'en penses quoi, Léa ?
Moi, j'ai bien réussi à m'identifier au personnage d'Achère parce que mon père, il est un peu comme ça, un peu comme son père. Les études, c'est pas très important. Et du coup, j'arrive bien à m'identifier au fait que moi, je veux faire des études et lui, il est plus là. Non, mais ce qui est bien, c'est le travail. Enfin, c'est mieux de travailler. Et du coup, je me suis bien identifiée. Je me suis dit que faudrait peut-être que je lui pose 2-3 questions quand même.
Merci beaucoup, Matan Yair, d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Et un très grand merci à vous, Margit Lipsker, de l'avoir traduit. Votre film s'appelle Les Destinées d'Achère et il sera en salle dès la semaine prochaine.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous inspire ?
La musique et regarder les gens.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous permet de vous évader ?
Danser sans que personne ne me voit.
Par les temps qui courent, continuez-vous à lire ?
Évidemment.
Je lis maintenant un livre de Nadia Ginsburg.
Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast au son ce soir, c'était Éric Boisset à la réalisation Lise-Marie Barré. Je ne dirai pas assez mon plaisir de faire de la radio avec vous les filles et avec les autres. Merci Sabrina, Inès, Léa et tous les étudiantes, étudiants, lycéennes ou lycéens qui ont fait de la radio avec nous cette semaine. C'est vraiment une immense joie. Jeanne Aléos, Corinne Ama, Romain Debec-Delièvre à la préparation de cette émission. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.